Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver pour cette émission Ta parole est vérité. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, je vous rappelle, chapitre 5, 6 et 7. Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Et nous arrivons à la fin de Matthieu, chapitre 6. Donc, Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Le premier grand sermon de Jésus. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc on avait vu Matthieu chapitre 5 avec les béatitudes. Je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17, verset très important, qui montre bien la différence qu'il y a entre la loi et la foi, pour montrer qu'avec la nouvelle alliance, nous entrons dans une nouvelle alliance et nous ne sommes pas uniquement dans l'ancienne alliance comme la loi. Ensuite Matthieu chapitre 6, le passage qu'on lit le mercredi des cendres, où on parle de la prière, de l'aumône et du jeûne. La prière, c'est mon lien avec Dieu. L'aumône, le lien avec le prochain. Et puis, le jeûne, ma sanctification personnelle. Hein, et les efforts que je dois faire pour faire plaisir à Dieu et mener une vraie vie chrétienne. Matthieu chapitre 7, c'est ce qu'on verra. Mais on finit d'abord par Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Un grand passage sur l'argent. Et par rapport à l'argent, il y a un problème réel. Et je crois que c'est important qu'on puisse réfléchir et comprendre que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc on va lire Matthieu 6, 24, 34. Vous tous qui avez des problèmes d'argent, je vous invite à lire ce passage tous les jours, pendant 9 jours de suite. Vous lisez chaque matin et chaque soir et vous le méditez pour voir ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous donne comme conseil par rapport au problème d'argent. Donc c'est vrai que l'argent c'est un problème qui est toujours très très sensible. Et avec l'argent, ben, très souvent, il y a des gens qui sont gênés et quelquefois même l'Église est gênée de parler de l'argent parce que quelquefois on a un petit peu peur. Alors que parler d'argent, je trouve que c'est une chose importante et l'argent fait partie de la vie de tout homme sur terre. Et il y a un regard de Dieu sur l'argent. On a déjà vu plusieurs fois à travers nos différentes émissions comment Dieu a un projet sur ta vie affective, sur ton cœur. Et comment Dieu aussi a un projet même sur ta manière de gérer ton argent. Et je ne peux pas être chrétien et gérer mon argent n'importe comment. C'est impossible. Il faut que les choses soient claires. En général d'ailleurs, quand une personne vient me voir dans mon bureau et que j'ai affaire à un homme, pour savoir si cet homme est vraiment un homme sérieux, en général je lui pose deux questions. Première question, es-tu marié à l'église? Et lorsqu'il me dit, oui mon père je suis marié à l'église, il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui soit quand même sérieux. Et deuxième chose, est-ce que tu donnes ta dîme? Et si tu as un homme dans l'église qui est marié à l'église et qui en plus donne sa dîme chaque mois, il y a de grandes chances à 95 ou 98% que cet homme est quelqu'un qui prenne Dieu vraiment au sérieux dans sa vie. Et c'est important d'être capable de gérer notre vie affective selon le plan de Dieu et notre vie financière selon le plan de Dieu. Et je crois d'ailleurs que Jésus-Christ n'a jamais été aussi méchant dans les Saintes Écritures qu'avec ceux qui ont des rapports à l'argent qui sont faux. Donc il a des paroles qui sont vraiment très dures et des malédictions qui accompagnent qui ne sont vraiment pas gentilles. Alors je vous lis ce passage de Matthieu 6, 24, 34. C'est la fin donc de l'évangile de chapitre 6 de Saint Matthieu dans lequel il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres par rapport à Dieu et par rapport à l'argent ». Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir bien deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, dans certaines traductions. Et mammon, c'est le Dieu argent. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est on peut servir Dieu et l'argent. Mais on ne peut pas servir Dieu et le Dieu argent. Et quand l'argent prend la place de Dieu, c'est là où l'argent devient mauvais. L'argent est une chose bonne. Hein? Je vous rappelle que si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, il faut avoir peur de cette personne plus que du voleur. Quand il m'est arrivé au sein de la caravane d'évangélisation, de travailler avec des gens, hein, je préfère faire un contrat et des choses claires en sachant que voici ce que je vais te donner pour le travail que tu vas faire, plutôt que quelqu'un qui me dit, mon père, moi l'argent ça ne me dit rien, ça ne m'inquiète pas. Et en général, la plupart des gens qui disent qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent, c'est eux qui te font les plus mauvais coups financièrement parlant. Et c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Personne ne peut servir deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Et dès que l'argent devient ton Dieu, bien, c'est terrible, ça devient ton idole qui prend la place de Dieu. Et dès que l'argent prend la place de Dieu, cet argent-là est un argent qui est mauvais. Et il faut que chacun d'entre nous puissions comprendre que l'argent est un moyen qui est bon. C'est important qu'on puisse avoir de l'argent. Sans argent, tu ne vis pas. Et je vous rappelle que tous les hommes de la terre qui sont normaux sont des gens qui aiment l'argent. Toutes les femmes qui sont normales aiment l'argent. Et moi-même, je suis normal et j'aime l'argent. Et c'est clair que si on peut avoir suffisamment d'argent pour faire et ses projets, et, mais c'est magnifique et c'est formidable. Et c'est important que chacun d'entre nous, on puisse avoir le minimum nécessaire pour vivre. Et ce minimum nécessaire pour vivre ben, implique justement cet argent. Mais il faut comprendre, vous voyez, que je n'ai pas le droit dans ma vie de gagner de l'argent qui est de l'argent sale. Et c'est pour ça que la première des choses à faire par rapport à l'argent, c'est accepter de travailler et de travailler d'une manière honnête. Moi, je vous dis, depuis 30 ans que je suis au Cameroun, le seul technicien qui a réparé ma voiture et que j'ai trouvé honnête, c'est le garagiste de la mission catholique de Garoua, qui était un religieux. En dehors de ça, tous les techniciens qui ont touché à ma voiture jusqu'à aujourd'hui sont tous des bandits et des voleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais même plus à qui tu peux confier ta voiture. Mais c'est terrible! Et c'est des gens qui vont manger ton argent, ils vont t'acheter des pièces qui ne valent rien, ils vont créer même des pannes sur ta voiture, et après tu risques même ta vie parce que ton véhicule n'est pas bon. Et tout ça pour gagner quoi? 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Mais ça n'a pas de sens, mon frère. Et ne me dis pas que tu es chrétien. Et il faut qu'aujourd'hui, nous acceptions dans notre tête d'avoir une manière de vivre qui ne soit pas la manière de faire des gens qui sont des bandits et des voleurs. Et il faut que nous puissions accepter de faire des factures qui soient honnêtes et qui soient vraies. Et il faut, même si on marche à contre-courant de toute la société, que nous puissions nous engager à montrer que comme chrétiens, nous ne sommes pas des gens comme les autres. Dans toutes les paroisses où je passe, je dis toujours à ces chrétiens qui m'écoutent, vous les chrétiens qui êtes là, il faut que simplement parce que vous êtes chrétiens, vous ayez une manière de vivre qui ne soit pas la manière de faire des autres. Quand tu passes dans une université, tu dis à ces garçons et à ces filles qui sont là que du fait même que tu es chrétien, comme chrétien, il faut qu'on sache que tu as un comportement qui est clair. Comment se fait-il, mes amis, que dans la majorité de nos paroisses catholiques, lorsque on fait la quête, première des choses qu'on fait, on met tout dans une caisse qu'on ferme à clé. Mais ça veut dire que le curé lui-même dans sa paroisse, mais l'argent qu'il a sous clé, pourquoi? Parce qu'il sait que si la quête quitte l'autel pour aller à la sacristie, il peut y avoir un manquant. Et si la quête quitte la sacristie pour aller au presbytère, il peut y avoir même un deuxième manquant. Et on est à la messe tous les jours. Et on n'a même pas confiance dans les servants de messe, dans le sacristain, dans les gens avec qui nous sommes ici à l'église. Et de fait, beaucoup d'entre nous qui sont à l'église sont des gens qui sont prêts à voler. Quand tu vois l'argent qui tombe du porte-monnaie d'une personne quelque part, est-ce que tu es prêt à prendre cet argent-là pour lui redonner? Si quelqu'un a mal fait la monnaie, et que est-ce que tu es prêt de lui dire que comme vous voyez, monsieur, madame, vous êtes trompé, voici 200 francs, 300 francs que je vous donne? Et il faut que nous puissions comprendre que comme chrétien, je dois avoir cette manière de vivre qui fait que par rapport à l'argent, 5 francs ne cherche pas son frère. Que je sois capable d'être rigoureux et honnête. Et Dieu demande à chacun d'entre nous comme chrétien de faire un choix. Dieu n'a pas dit dans les Saintes Écritures qu'il faut choisir entre Dieu et ta femme. Il n'a pas dit qu'il faut choisir entre Dieu et la prostitution. Il n'a pas dit de choisir entre Dieu et Satan. Il a demandé de choisir entre Dieu et l'argent. 1 Timothée 6, 10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonné, certains ont perdu leur âme. Et il faut que mon rapport à l'argent soit un rapport qui soit vrai. Et que je puisse être honnête avec l'argent. Premièrement, je peux avoir de l'argent que si je travaille d'une manière qui est honnête et qui est claire. Je n'ai pas le droit de faire de fausses factures. Je n'ai pas le droit de faire avoir des fausses signatures, des faux papiers. Ce n'est pas possible. Il faut que nous puissions comprendre que celui à qui tout appartient, je crois que c'est Agé chapitre 2 verset 8, c'est l'or et l'argent qui appartient à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu. Toi-même, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, si mes souvenirs sont bons, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as là, tu l'as reçu. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est Dieu qui a donné la vie que tu as. C'est Dieu qui donne le soleil qui sève chaque matin. C'est Dieu qui donne l'air que tu respires chaque jour. Et au bout d'un moment, mais ce Dieu-là, est-ce que je crois qu'il est Dieu, oui ou non? Et il faut que je puisse, en tant que chrétien, m'engager à avoir un rapport sur l'argent qui soit vrai. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il y a un choix. Comprenez bien, il y a des gens qui sont riches et qui ont gagné de l'argent honnêtement. Et profitez de votre richesse. Tant mieux pour vous si vous avez de l'argent. Et réjouissez-vous. Si vous pouvez voyager, voyagez. Si vous pouvez profiter de la vie, parce que vous avez... allez-y. L'argent est un serviteur. Et quand tu as réussi à gagner de l'argent d'une manière honnête, n'aie pas peur d'avoir ton argent et d'avoir ton niveau de vie. Mais une chose qui est sûre, c'est que tous ceux qui m'écoutent ce matin-là et qui avaient gagné de l'argent d'une manière malhonnête, vous êtes malheureux là. Et quand je parle, ça vous dérange, et je le sais. Et je vais continuer à parler pour que même ce soir, vous dormiez mal et que vous arrêtiez d'être des petits bandits et des voleurs. Et à cause de l'argent que tu voles, tu risques de perdre ton éternité, mon frère. Et c'est pour ça que l'argent ne sert pas. L'argent honnêtement gagné est magnifique, il est bon et il est grand. L'argent malhonnêtement gagné va te donner des maux de tête. Tu n'auras jamais la paix dans ton cœur. Toi qui démarres une voiture chaque matin, qui est la voiture de l'argent, de la corruption, ta voiture sent mauvais. La maison que tu as construite sent mauvais. Tout ton argent sent mauvais parce que toi-même, tu sens mauvais. Et tu ne pourras jamais trouver la paix, mon frère. Tu ne pourras jamais trouver la paix si toi-même, tu ne t'engages pas à regarder ta vie d'une manière claire et nette par rapport à l'argent et à mettre toutes ces choses-là un jour devant Dieu. Et vous qui êtes des corrompus, vous qui êtes des voleurs, moi, je ne suis pas là pour vous condamner, hein. Je ne suis pas là pour vous juger. Non, ça, que les choses soient claires. Hein, je vous rappelle Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous rappelle le verset qui suit, qui est encore plus joli. Jean chapitre 3, le verset 17. Car Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ est venu sauver le monde. Il est même venu sauver les corrompus. Il est venu sauver les voleurs. Il est venu sauver chacun d'entre nous. Et maintenant, il y a un salut qui est proposé. Notre pape qui insiste beaucoup sur la miséricorde. Cette miséricorde est donnée par Dieu à tous les hommes de la terre à partir du moment où tu commences par un cheminement dans lequel tu reconnais que tu as eu tort. Tant que tu ne reconnaîtras pas que tu as eu tort, tu ne pourras jamais demander pardon à Dieu et ton âme est sérieusement en péril. Il faut se rappeler qu'un jour, nous tous, on va mourir et que l'enfer existe. Et maintenant, par rapport à l'argent, si moi-même, dans ma vie, je reconnais qu'à un moment ou à un autre, j'ai posé des actes qui ne sont pas bons, va rencontrer un prêtre. Quand tu vas rencontrer un prêtre, dis-lui, « Mon père, comme tu vois, moi, je veux mettre les choses au clair. Je suis un homme, on me respecte peut-être ici ou là, mais j'ai un problème, j'ai volé des millions ou des dizaines de millions ou des centaines de millions, ou peu importe. Et mon père, aujourd'hui, je voudrais me remettre avec Dieu. La plupart de mon argent là, je ne l'ai plus. Je ne peux pas rembourser les dettes que j'ai eues. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma conscience soit tranquille devant Dieu ? Et tu vas rencontrer un prêtre, vous causez ensemble et vous trouvez une solution. Et Dieu a une solution pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous rappelle que Dieu a réussi à ouvrir la mer Rouge lorsque Moïse se trouve avec l'armée de Pharaon qui vient l'agresser. De l'autre côté, c'est la mer qui est là, la mer Rouge, on ne peut pas traverser. Et le peuple qui est à côté de lui et le peuple qui veut le lapider. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, Moïse est dans une situation où il est complètement perdu. Et étant perdu, il sait que c'est fini. Le peuple lui dit même, pourquoi tu nous as libérés? On était bien là-bas en Égypte. Tu nous as libérés pour que l'armée maintenant vienne nous détruire et on puisse mourir. Et Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton, ouvre la mer Rouge. Et Dieu peut dire à chacun d'entre nous n'importe quand. Il peut trouver une solution pour nos problèmes, quels qu'ils soient. Et quel que soit ton problème, Dieu a une solution pour toi. Mais la seule chose où là Dieu ne peut pas agir, c'est quand toi-même tu refuses de vouloir te convertir. Un des textes que je propose à votre méditation pour ceux qui aiment beaucoup réfléchir sur la miséricorde, c'est le passage de Jean chapitre 8, dans lequel on voit cette femme adultère. Et la femme adultère, c'est cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et étant prise en flagrant délit d'adultère, comme par hasard, le flagrant délit d'adultère fait qu'on ne retrouve que la femme, mais l'homme qui devait être là, puisque c'est flagrant délit, lui, il est parti. Il a piaque, comme on dit chez moi au village. Et il n'est plus là. Et maintenant qu'il n'est plus là, On apporte cette femme qui quitte sa maison, prise en flagrant délit d'adultère, sait qu'elle ne rentrera plus jamais chez elle. Elle sait qu'elle est morte. Elle sait qu'elle sera lapidée. C'est la loi, c'est écrit, c'est net, c'est comme ça qu'on fait. Regardez comment on a lapidé Étienne dans le début des Actes des Apôtres. Et donc, on voit que la lapidation fait partie de la loi juive. Et cette femme sait que maintenant qu'elle a été prise, on va l'amener au Sanhédrin, on va la trouver coupable, on va la lapider, c'est fini, elle est morte. Elle arrive, on apporte cette femme auprès de Jésus. Et Jésus dit à ces gens, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est très joli, hein? On est là, parce que beaucoup d'entre nous, là, on est là, on dit que oui, le Père, tu parles bien, c'est ça, les corrompus, on en a marre. Mais les corrompus, c'est qui? Et les corrompus, je vous dis, parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais détourné un million. Il y a plein de gens là qui écoutent l'émission, qui n'ont jamais détourné un million de leur vie. Et il y a d'autres qui écoutent cette émission qui ont détourné des millions. Et la différence qu'il y a pour moi entre ceux qui ont détourné et ceux qui n'ont pas détourné, c'est que ceux qui n'ont pas détourné, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, c'est tout. Combien d'entre nous, mes amis, si on nous mettait à un poste où on pouvait gérer de l'argent, on ferait exactement comment ? La chèvre broute là où elle est attachée. Voici la parole de Dieu qui dirige ma vie. Non pas les saintes écritures et la parole de Dieu que me donne l'église, mais ces petits dictons et proverbes qu'on attrape au quartier. La chèvre broute là où elle est attachée. On ne m'a pas encore attaché, j'ai pas encore bu brouter. Mais combien d'entre nous auraient brouté si on leur avait donné la possibilité de détourner de l'argent? Et c'est pour ça que quelquefois, il faut se rappeler que nous qui sommes là, nous ne sommes peut-être pas meilleurs que ceux qui sont éperviables et qui sont à Condengui aujourd'hui ou qui ont été trouvés coupables parce qu'ils ont détourné de l'argent. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ dit à ces gens que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et on dit qu'ils commencent à partir les uns après les autres, en commençant par les plus vieux, parce que les plus vieux ont plus péché que les plus jeunes. Et Jésus-Christ se retrouve seul avec la femme. Et Jésus-Christ demande, où sont-ils donc? Ces gens qui t'ont condamné, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais il ajoute, va, et désormais ne pêche plus. Toi qui es corrompu, à partir d'aujourd'hui, va, reçois le pardon de Dieu, engage-toi à vivre comme Dieu veut, va, mais désormais ne pêche plus. Dans Jean chapitre 5, lorsque Jésus-Christ va guérir cet homme qui est paralysé depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethsaida, une fois qu'il lui dit « Veux-tu être guéri ? Lève-toi et marche. » Il le retrouve au temple un peu plus tard et il lui dit « Attention, maintenant marche selon ma parole, sinon il pourrait arriver pire. » Et Jésus-Christ lui dit que tu peux avoir pire que d'être paralysé depuis 38 ans si toi-même tu ne veux pas te convertir. Et c'est pour ça que la conversion est importante. Et la conversion par rapport à l'argent est quelque chose qui est capital. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes tentés par de l'argent facile. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour avoir de l'argent facile. Il y a les sectes qui sont dehors. Je vous rappelle cet homme que j'avais rencontré qui a dévirgé toutes ses filles dans sa maison à l'âge de 14 ans. Et quand un père de famille commence à dévirger toutes ses filles dans sa maison à l'âge de 14 ans, c'est parce que cet homme-là a fait un pacte avec le diable. Et maintenant qu'il s'est mis d'accord avec le diable pour pouvoir avoir ce qu'il voulait avoir, le diable lui dit « Je vais te donner ce que tu veux, mais toi en contrepartie tu me donnes quoi ?» Et c'est pour ça que le diable veut que toi aussi tu poses des actes qui soient conformes à lui pour montrer que tu es son ami. Comme Dieu veut que tu montres des actes qui sont conformes au plan de Dieu pour montrer que tu es l'ami de Dieu. Je vous rappelle Jacques chapitre 2 verset 14 à 19. Tu as la foi, où sont tes œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Et si je n'ai pas les œuvres par rapport à l'argent qui sont conformes à ce que Dieu veut, il y a quelque chose de ma vie qui n'est pas remise à Dieu. Et une chose qui est sûre, c'est que Satan un jour ou l'autre cherchera à pouvoir me détourner. Je vous avais parlé dans Matthieu chapitre 4 des trois tentations du Christ au désert. Et dans les trois tentations du Christ au désert, ces trois tentations recouvrent la personne que je suis. Puisque une personne humaine implique un corps et une âme. Et donc, j'ai mon corps et j'ai mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle qui implique intelligence et capacité d'aimer. Et j'ai mon corps, mais qui lui implique le corps et qui doit aussi se nourrir. L'intelligence, je vous rappelle, se nourrit de vérité. La capacité d'aimer se nourrit d'amitié vraie. Et le corps se nourrit de la chop. La hit, la nyama, la damé, beignet, haricot, tout ça. Et donc, on a l'être humain que je suis qui implique mon intelligence qui se nourrit de vérité, ma capacité d'aimer qui se nourrit d'amitié vraie et mon corps qui se nourrit de la nourriture de chaque jour. Et il y aura une tentation du Christ au désert, il y a une tentation par rapport à l'intelligence. Et la tentation par rapport à l'intelligence, c'est justement celle qui regarde aujourd'hui tout ce qu'on appelle le faux prophète. Je vous rappelle que dans Apocalypse, chapitre 12 et 13, on a le dragon rouge-feu qui est le diable. Le diable donne son pouvoir à la bête de la mer et la bête de la terre. Et la bête de la terre dans l'Apocalypse, c'est lui qu'on appelle le faux prophète. Et il y a le faux prophète qui va essayer de détourner ton intelligence pour que tu ne puisses plus être dans la vérité. Je n'insiste pas, c'est tout le problème de la parole de Dieu, de la Bible et de la biblette. Et c'est très important que du côté de notre intelligence, on soit au clair pour savoir où se trouve la vérité. Et le diable va te tenter par rapport à ton intelligence, par rapport à la vérité. Et toutes les églises qui naissent dehors sont des églises qui sont là justement pour essayer de nous faire croire que nous sommes dans la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Donc la réflexion sur la vérité, l'importance de l'église, la parole de Dieu. Deuxième, c'est par rapport à l'amitié. Est-ce que Jésus-Christ est celui qui a la première place dans mon cœur ? Est-ce que dans mon cœur, moi, j'accepte qu'il puisse y avoir dans mon cœur quelqu'un qui place la place de Jésus-Christ ? Et je vous rappelle que vous toutes, mesdames, qui êtes parties habiter en concubinage chez un homme sans être passées par le mariage à l'église, bien vous avez trahi Jésus-Christ. Et il y a une trahison du côté du cœur. Je le piffe mal, il me yamo, mon nom c'est Madame Jésus, je l'aime. Voici la tentation. Il y a une tentation donc par rapport à l'amour. Et il y a une tentation maintenant par rapport au corps. Et la tentation par rapport au corps, c'est la tentation par rapport à la nourriture. Et la tentation par rapport à la nourriture, c'est la première tentation dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4. Et cette tentation, c'est la tentation par rapport à l'argent. Parce que si je veux manger, il faut que je puisse acheter ma nourriture. Et mon corps qui m'a été donné implique que je puisse avoir des vêtements et l'habiller. Mon corps fait que je dois habiter dans une maison. Et c'est pour ça que la tentation par rapport au corps, c'est la tentation par rapport à l'argent. Et c'est important donc qu'on puisse réfléchir et comprendre que Dieu, ce Dieu que j'aime, bien, il m'a donné un corps. Et ce corps qu'il m'a donné, il m'a donné l'air que je respire chaque jour. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est lui qui me donne tout. Est-ce que tu as confiance en lui ? L'autre jour, une femme est venue me voir. Elle vient me voir et elle me fait comprendre que ça fait 5 ans. Qu'elle sort avec un homme marié. Et je lui ai dit, madame, si tu veux revenir dans mon bureau un jour, il faut barrer cet homme marié. Ça ne sert à rien que tu viennes écouter le père Hervé Marie, que tu veuilles que je prie sur toi ou que je ne sais pas quoi encore, que je bénisse ton nom, si toi-même tu ne veux pas d'abord changer de vie. Qu'est-ce que tu fais, madame, avec un homme marié ? À la messe chaque dimanche. Pour dire quoi à Dieu ? Pour que Dieu te bénisse comment ?
Je suis avec un homme marié.
Jusqu'à quand? Et il faut que chacun d'entre nous, on puisse s'engager. Je ne peux pas commencer à vivre avec un homme pour l'argent. Vous, mes sœurs, qui cherchez les blancs sur le net pour partir là-bas, trouver un vieux qui va vous donner son héritage rapidement. Mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas vous bénir. Il faut qu'on soit honnête et clair. Est-ce que je pars en mariage pour l'argent ou est-ce que je pars en mariage parce que j'aime celui avec qui je suis ? Et vous les parents qui empêchez vos enfants de se marier avec un homme parce qu'il est pauvre, vous pensez que Dieu du haut du ciel pense quoi de vous ? Il faut que chacun d'entre nous, nous soyons clairs. Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et il y a un choix et ce choix, il est pour chacun d'entre nous. Je termine en vous citant Deutéronome 30:15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. C'est chacun d'entre nous qui allons choisir. Tu vas choisir pour ta vie. Mais choisis, mon frère, choisis, ma sœur, en tenant compte de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité qui te donnera le bonheur et qui mettra ton cœur dans la paix. Loué soit Jésus-Christ. Et à dimanche prochain.